don't have to believe everything you think. We've been programmed. Wake up, we miss you. They call you Indigo. We call you Africa. Go get back, dive in the ocean. C'était Erika Badou avec The Healer. Vous êtes bien sur Radio Campus FM dans l'émission Quoi de Neuf. Notre prochain invité est Violaine Digonnet, la chargée de projet pédagogique au musée du LEM de Villeneuve-d'Ascq. Et elle sera accompagnée de Théodore et Théo, étudiants de Lille 3.
Merci Flora, bonjour Violaine Digonnet.
Bonjour.
Alors déjà merci d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler du LEM aujourd'hui. On aimerait aborder avec vous la médiation donc présente dans votre musée au LEM, en direction notamment avec les enfants. Mais avant d'aborder le thème de la pédagogie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre rôle au sein de l'établissement ?
Alors, je travaille au LAM. Juste deux mots peut-être sur ce qu'est le musée, parce que c'est un peu, il fait un peu figure d'ovni dans un paysage muséal où on est plutôt habitué à avoir des MAC pour des musées d'art contemporain ou des MAM pour des musées d'art moderne. Donc le LAM est un musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut. D'où la petite spécificité de l'acronyme LAM. Et moi, mon métier au sein du musée, c'est donc d'être chargée des projets pédagogiques et donc de prendre en charge prioritairement le public scolaire.
Donc vous réalisez des ateliers, des choses comme ça. C'est vous qui gérez les visites, par exemple ?
Alors, je n'accompagne pas les visiteurs. Une équipe de 10 médiateurs sont en charge. Mais j'organise en amont les activités qu'on va proposer à ces groupes. Et ça peut être effectivement des visites ou des ateliers ou beaucoup d'autres formes.
Une autre question peut-être sur les collections. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, parce que vous avez des collections assez particulières quand même, des collections d'art contemporain, moderne et brut. Quelles sont les spécificités ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ?
Alors, ce serait vraiment compliqué aujourd'hui, là, à la radio, on a un quart d'heure de définir ce qu'est l'art contemporain, ce qu'est l'art brut et l'art moderne, parce que c'est infini, c'est des questionnements infinis, avec des frontières qui sont floues, qui sont difficiles à trancher. Mais simplement dire que ces trois collections balayent, du coup, quasi l'entièreté de l'art du XXe et du XXIe siècle, et notamment jusque dans ces normes ou dans ce qu'on a appelé ces frontières, justement, avec l'art brut spécialement. Mais après, définir chaque collection, ce serait impossible.
D'accord, donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, parce qu'on voit sur le site internet du LAM qu'il y a un nombre important d'activités proposées pour les enfants. Alors, est-ce que c'est une politique principale du musée pour ouvrir l'art aux enfants ?
Oui, c'est vrai que le musée est très orienté en direction des familles notamment et du jeune public. Donc oui, c'est une volonté du musée d'aller vers ces publics. Et donc moi, mon effort, alors d'abord peut-être dans le milieu scolaire, puisqu'au départ je suis plutôt en charge de ce secteur, ça a été vraiment d'aller concevoir des activités à destination des tout-petits, parce qu'on s'est rendu compte, et je pense que je ne suis pas la seule dans les musées, on doit faire face à une demande de plus en plus forte des écoles maternelles, et on n'a pas les outils adéquats en face, puisqu'une visite simple commentée en fait ne le satisfait pas, et j'ai donc dû réfléchir notamment avec une comédienne spécialiste de la petite enfance qui s'appelle Béatrice Courtois à concevoir donc une activité beaucoup plus souple, puisque un enfant, c'est un enfant, ça touche à tout, ça s'agite beaucoup, ça a des capacités d'attention très limitées, à la fois ça a une curiosité débordante. Et là, du coup, on a vraiment rythmé la visite en deux temps. D'abord, une histoire est racontée à l'enfant tout en étant dessinée devant eux. C'est très ludique. Ça raconte l'histoire d'un petit point qui part se promener, qui devient donc une ligne. De cette ligne naissent des formes. Et donc, c'est un beau préalable à une visite, parce qu'on met la base d'un vocabulaire plastique de façon ludique. Et après, l'enfant part à la découverte de ces formes, donc de ces lignes et de ces points dans les œuvres d'art plastique. Et c'est une activité qui a remporté un énorme succès auprès des tout-petits, justement.
Parce que, justement, avec Théodore, on s'imaginait que l'art brut, comme l'art moderne et l'art contemporain, ça doit être assez compliqué de l'aborder avec un enfant. Parce qu'on a vu, par exemple, vous faites des ateliers ouverts à partir de 2 ans. Il y a toujours des méthodes, des nouvelles façons de faire pour trouver, par exemple, là vous expliquez avec le point à la ligne, il y a toujours des innovations pour réussir à attirer l'attention des enfants.
Ouais, en fait, je pense que l'art moderne, contemporain ou brut n'est pas un obstacle pour les enfants, beaucoup moins que pour les adultes ou pour les jeunes. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas de préjugés ou de présupposés sur ce que doit être une œuvre. Donc ils l'abordent avec, au contraire, beaucoup de... sans complexe et de façon très simple. En revanche, ce qui est difficile, effectivement, c'est de trouver une médiation qui soit adaptée à eux et à leur âge, à leur capacité d'attention, etc. Donc nous, notre effort, c'est plutôt de s'adapter. Mais l'œuvre en elle-même ne pose pas de problème. Et d'ailleurs, c'est étonnant de voir comment, par exemple, l'art brut pose beaucoup de questions et de problèmes aux inspecteurs, notamment, et beaucoup moins, en fait, si on descend dans la hiérarchie de l'éducation nationale, aux enseignants, et encore moins aux élèves. Donc, des fois, on préjuge de ce que va penser un visiteur, et bien souvent, en tout cas, les enfants sont beaucoup plus ouverts à l'art que... Ouais.
Donc les enfants n'ont pas forcément d'obstacles, mais on leur met des obstacles. Enfin, c'est plus les autres qui s'imaginent qu'il y a des obstacles pour les enfants.
Ben, voilà, en fait, s'il y a des obstacles, c'est plutôt des obstacles en termes de logistique, comment gérer un groupe et s'adapter à ses temps d'attention, etc.
D'accord. Et justement, on se demandait un peu en quoi consiste une activité, par exemple, que vous proposez pour les enfants.
Et ben là, j'ai parlé spécialement d'une activité, après, qui était donc à direction des scolaires, pour illustrer de façon plus large comment on s'adresse à un jeune public au musée. On a aussi, et là, c'est avec une collègue du musée qu'on a mis en place un week-end complètement consacré aux familles, qui s'appelait le week-end Pochette Surprise, vous en avez peut-être entendu parler. Et là, l'idée, c'est justement d'ouvrir au jeune public, à partir de 2 ans, mais jusque beaucoup plus tard, le musée, et de faire que ce lieu soit complètement transformé pendant ce temps du week-end. Il est gratuit aussi, donc c'est déjà une barrière en moins pour accéder aux œuvres. Mais les barrières les plus fortes ne sont pas les barrières tarifaires ou géographiques. En fait, c'est des barrières qui sont intégrées par le public, qui ne se sentent pas forcément légitimes à aller dans les musées et face à certaines œuvres. Du coup, là, l'entrée, c'est vraiment d'aller vers des choses qui leur sont plus familières et de proposer des activités qui puissent être de l'ordre du concert, du spectacle, d'un atelier performatif, collectif, etc., des choses assez ludiques pour après les emmener, en fait, aussi dans les collections, toujours sur ce mode un peu ludique, mais qui a aussi une volonté pédagogique et d'apprentissage derrière. Mais c'est une manière d'ouvrir le musée aux jeunes publics et aux familles aussi.
Du coup, moi, je me demande si ça se fait toujours avec les parents, par exemple, les ateliers pour enfants, ou
alors, bah, dans
des
le
fois,
cadre,
vous aimez diviser justement, mettre les enfants tout seuls.
Alors, les deux peuvent se faire. Dans le cadre de ce week-end Pochette Surprise, c'était justement le choix de proposer des activités à partager en famille, parents-enfants, des activités courtes et pluridisciplinaires, comme je disais. Mais on propose aussi des ateliers main dans la main. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est vraiment plusieurs générations qui travaillent ensemble. Enfin, qui ne travaillent pas, qui découvrent ensemble le musée et les œuvres. Et parfois, on propose des ateliers qui sont spécifiques aux enfants et les parents sont pris dans un accompagnement à côté.
D'accord, on va passer tout de suite à la première pause musicale. On a choisi de diffuser le titre « Do It Again » de Skip the Use. Alors, il y a une chorale d'enfants, c'est pour ça qu'on a voulu faire un petit lien. Donc, un groupe qui a utilisé plusieurs fois des chorales d'enfants. Bon, vous ne pourrez plus les entendre désormais vu qu'ils se sont séparés dernièrement. Mais en tout cas, on s'écoute ça, c'est « Do It Again » de Skip the Use.
Cowboy in the cemetery, maybe a fantasy. My new mom.
c'était Skip the Use avec Do It Again. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Radio Campus 106.6 FM. Nous sommes toujours en présence de Violaine Digonnet, chargée de projets pédagogiques au musée du LEM, interviewée par Théodore et Théo.
Alors, on va parler un petit peu là de justement s'il y a entre vous et puis les écoles, des partenariats qui se lient, des activités un peu qui se lient avec justement les écoles de la métropole.
Oui, il y en a beaucoup, pas que de la métropole d'ailleurs. Pour info, le musée, finalement, là, je faisais des statistiques il n'y a pas très longtemps, et le rayonnement finalement du musée porte vraiment sur la région. Il y a énormément d'écoles de la région et du Nord-Pas-de-Calais et du Pas-de-Calais qui viennent justement au musée. Mais évidemment, il y a des rapports plus privilégiés avec certaines écoles de proximité. Vous souhaitez des exemples concrets de projets?
Oui.
Bah, y en a un peut-être qui est intéressant parce qu'il a double niveau en termes de médiation. C'est un projet au départ en direction d'un groupe d'étudiants du Conservatoire de Lille, enfin plus exactement du Pôle supérieur d'enseignement artistique de Lille, qui après a la charge d'accompagner des enfants, des petits dans le musée. Et là, donc, ce qui était intéressant, c'est que les étudiants sont venus découvrir le musée. Eux, leur compétence, c'est d'être musicien. Et ils ont donc proposé une interprétation des œuvres qui était musicale. Et ils ont après conçu un parcours donc musical dans le musée et accompagné des enfants. Donc là, c'était des écoles de proximité de Villeneuve-d'Ascq qui était un groupe scolaire, qui a donc bénéficié de cet accompagnement. Donc là, la médiation, elle se joue à deux niveaux, c'est-à-dire que le visiteur devient médiateur, et c'est plus le médiateur du guide du musée, professionnel, érudit, historien de l'art, qui conduit la visite.
On voit bien, oui, il y a une vraie dynamique. On va jusqu'au conservatoire, c'est ça, ce que vous venez de dire, et puis on mélange ça avec des écoles, etc. Donc il y a même plusieurs générations aussi, j'imagine.
Il y a plusieurs générations, et puis il y a vraiment cette volonté d'expérimenter d'autres formes de médiation qui sont justement portées par le public. C'est intéressant de se poser la question, quel rôle on donne au public dans un musée? C'est pas toujours de recevoir un savoir, ça peut être de transmettre, de donner sa propre interprétation, même quand elle est ici musicale.
Et c'est assez étonnant quand même comme projet avec un conservatoire. Alors du coup, on se demandait comment naît un projet. Est-ce que vous avez comme ça subitement une idée? Est-ce que c'est préparé longtemps à l'avance? Est-ce que vous vous mettez à la place de l'enfant et vous imaginez ce qui pourrait lui plaire? Ce que vous pourrez faire avec lui, avec les œuvres?
Ah, c'est une question très belle, très, très inattendue. Comment se construit un projet? Ben là, c'est difficile. Alors, ça tient parfois à l'énergie, à la motivation de certains partenaires qui sont convaincus et qui veulent expérimenter justement d'autres approches. Ça peut être à mon initiative. Souvent, c'est quand même, ça naît de discussions collectives et ça se module dans des échanges. Ça peut naître du constat d'un manque et de faire le bilan, de constater un échec vraiment dans nos médiations. Et donc, pour y répondre, eh ben, il faut inventer d'autres choses, il faut sortir de nos pratiques, il faut les questionner, et c'est tout. C'est vraiment là mon métier, c'est à la fois d'expérimenter des pratiques, de questionner les pratiques existantes.
Alors justement, en parlant un peu d'expérimentation, donc vous avez eu l'idée d'un atelier philosophique au musée du LAM, et donc on se demandait en quoi justement ça consiste un peu un atelier philosophique dans un musée d'art.
Et surtout avec les enfants, les enfants peuvent y participer à cet atelier philosophique?
Oui, complètement. On le propose à partir de 7 ans. Alors, peut-être ça pourrait même se faire un peu plus tôt. Mais merci de poser la question, parce que c'est quelque chose qui me tient quand même bien à cœur. Et ça, vraiment, ce qu'il faut comprendre dans l'atelier philo, il ne faut pas forcément retenir le mot philosophique, mais c'est que vraiment, on retourne complètement le schéma de visite habituel. C'est-à-dire qu'habituellement, c'est un guide qui transmet un savoir à un groupe et qui est dans la position de l'érudit, comme j'en parlais tout à l'heure, alors que là, l'accompagnant va simplement questionner les enfants, et c'est eux qui vont collectivement nourrir une réflexion sur l'art. C'est-à-dire qu'en fait, eux vont apprendre les compétences qu'on va développer dans cet atelier. C'est pas d'acquérir des connaissances, mais c'est de développer l'esprit critique, d'apprendre à argumenter, de s'écouter, de cheminer dans une pensée, etc. Donc c'est des habiletés qui sont moins celles de l'école, même si maintenant dans les programmes on encourage de plus en plus à développer ce genre de compétences, mais et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un, on retourne à 180 degrés la traditionnelle visite commentée, parce que là le guide, d'ailleurs pour info, il ne connaît rien à l'art, il n'est ni historien de l'art ni plasticien, et il est questionnant, il se contente de poser les questions. Par contre, poser des bonnes questions pour faire cheminer un enfant dans sa pensée, c'est un vrai métier.
Et ça revient au fait aussi qu'on dit parfois que les enfants, ils voient des choses que les adultes ne voient pas dans les œuvres. Est-ce que c'est aussi lié plus ou moins à cette idée-là, que du coup les enfants peuvent philosopher d'une différente manière
Alors, je pense que adultes et enfants, beaucoup de gens projettent des choses sur les œuvres et ont leur propre interprétation. Certainement, les enfants osent plus l'exprimer que les adultes. Donc ça, c'est pas vraiment une différence. Par contre, c'est sûr que les enfants ont déjà une idée assez vite de ce que doit être une œuvre. Donc du coup, ils sont porteurs d'une pensée philosophique finalement et qui sont prêts à défendre et à débattre. Et c'est intéressant de voir comment un enfant, si on lui demande de se positionner devant l'œuvre qu'il estime la plus légitime à être au musée, il va en choisir une et il va devoir expliquer pourquoi il choisit elle. Et c'est trop drôle de voir ce qu'ils répondent. Un enfant peut dire c'est parce que l'artiste a mis beaucoup de temps à faire l'œuvre et c'est ça qui fait que c'est la qualité de l'œuvre. Alors après, on va un peu plus loin dans la question en disant alors il faut combien de temps pour que ce soit une œuvre à tes yeux, etc. Et après, l'idée, c'est justement de montrer les contradictions et de faire tomber les préjugés. C'est ça aussi l'objectif d'un atelier philo. Mais c'est génial de voir comment les enfants ont évidemment une pensée déjà construite, qu'ils peuvent argumenter et défendre. Et c'est en ça que ça a une dimension philosophique, on va dire.
Ça fera une super transition avec la prochaine chanson, justement, cette idée. On a l'impression que c'est un baptême du feu pour les enfants, alors qu'apparemment pas du tout, ils ont déjà des bases acquises pour explorer les œuvres. Alors du coup, on va tout de suite diffuser la chanson de M qui s'appelle Le Baptême.
Yeah.
C'était Le baptême de M. Nous sommes toujours sur Radio Campus en présence de Violaine Digonnet, chargée de projets pédagogiques au musée du LAM, interviewée par Théodore et Théo.
Alors on va entamer le dernier bloc de questions, les dernières questions, avec tout ce qui va tourner autour du numérique, parce qu'on voit souvent maintenant des musées qui cherchent à innover, et souvent c'est lié à l'envie d'attirer les publics. Alors pour les enfants, est-ce que les outils numériques sont liés avec l'approche du jeune public, par exemple au LAM?
Alors, c'est moins mon champ de compétences, le numérique, mais il existe effectivement un parcours enfant qui est proposé dans le visio-guide du musée et qui fonctionne très bien, visiblement. Mais puisqu'on pose la question du numérique, je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un peu une course effrénée à concevoir des outils qui soient interactifs. Et en fait, je pense qu'il est aussi important de dire que l'outil le plus interactif qui soit, c'est l'homme. Et en fait, quand on fait de la médiation humaine, c'est-à-dire qu'un guide ou médiateur ou animateur, appelons-le comme on veut, même si la terminologie, elle a quand même du sens, mais une personne, on va dire, qui anime un groupe ou qui l'accompagne, eh ben, elle peut pousser l'interaction au maximum et beaucoup plus loin que ne le peut un autre outil. Donc voilà, c'est intéressant quand on parle d'interactivité de se dire que c'est pas forcément les smartphones, etc., qui sont les mieux pourvus. Mais je pense qu'il y a, de fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer et qu'on y va, d'ailleurs, on y va au LAM. Autre chose qui est un intermédiaire entre le guide et le visio-guide, c'est aussi des documents d'aide à la visite plus classiques qui prennent des formes papier, mais là encore, on peut proposer des choses qui sont bien plus chouettes que juste une photocopie avec un questionnaire type scolaire qu'on distribuerait aux enfants. Et nous, c'est vrai qu'au musée, on a conçu un certain nombre de documents ludique à destination des enfants, et notamment dont certains ont fait l'objet de collaborations, par exemple avec des auteurs jeunesse. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec Tom Tom et Nana en visite au musée, avec Bernadette Després, la dessinatrice donc de cette fameuse bande dessinée, qui les avait mis en scène. Alors là, c'était quasiment purement ludique, mais on en a eu un autre qui s'appelle Hervé Tulé, que vous connaissez peut-être, qui lui s'adresse beaucoup aux tout petits et qui aussi a collaboré avec nous à la réalisation d'un petit document vraiment qui proposait des qualités de papier, des grammages très différents, etc., pour concevoir, pour après que ces divers papiers soient manipulés par l'enfant, pliés, déchirés, découpés, etc., tordus, etc., pour concevoir une petite sculpture à monter soi-même. Donc il y a énormément, en fait, d'outils qu'on peut proposer en accompagnement des expos, et toujours, bien entendu, ce qui compte, c'est d'être au plus près de la couleur de l'expo, et c'est vraiment l'œuvre qui va déterminer le format de l'outil et son contenu.
Donc, on voit bien qu'il n'y a pas forcément que le numérique qui permet d'attirer encore les enfants aujourd'hui. Il y a plein d'autres manières, avec par exemple les auteurs et tout ça.
Bien sûr, mais le numérique en fait partie, et c'est effectivement un outil à utiliser comme les autres, avec ses potentialités qui lui sont propres et qui sont énormes, en effet.
Et ces dernières années, on a souvent l'impression, on dit souvent que les enfants ne sortent plus, les enfants ne vont plus forcément dans les établissements culturels. Est-ce que vous remarquez ça, ou au contraire, il y a eu de plus en plus de jeunes qui viennent au LAM?
Ah ben, pour vous donner quelques données chiffrées quand même, imaginez que sur les week-ends là, qu'on a vraiment destiné au jeune public, sur les trois éditions, il y a eu, sur la première édition, il y a eu 7000 visiteurs. Imaginez 7000 familles qui se déplacent au musée le temps d'un week-end. Donc dire que les musées ne seraient pas fréquentés par les enfants, par les familles et par les enfants notamment, ce serait absolument faux. Et d'autre part, la fréquentation, une grosse part de la fréquentation des groupes au musée se fait par le jeune public. Et dans les scolaires, puisque j'ai plus en charge ce secteur, c'est encore évidemment les écoles primaires qui viennent beaucoup plus nombreuses que le secondaire. Donc au contraire, manière, je dirais, plus les enfants sont jeunes, plus ils fréquentent le musée. Après, bien sûr, ça touche certaines catégories socio-professionnelles, certainement, et évidemment. Mais il y a quand même encore beaucoup de monde qui fréquente évidemment ces structures.
Bah, je pense qu'on a terminé cet entretien. Merci beaucoup, Violaine Digonnet, d'avoir répondu à nos questions. Et on espère pouvoir aller visiter le LAM et voir des enfants visiter et aller dans les ateliers. On va quand même rappeler que le LAM, pardon, c'est à Villeneuve-d'Ascq. Hein, vous pouvez y aller par le métro. Enfin voilà. Et c'est du mardi au dimanche de 10h à 18h. C'est ça, les horaires d'ouverture.
Exactement.
Et vous pourrez trouver toutes les informations du LAM sur muséelam.fr et notamment les visites guidées et les ateliers pour enfants sur le site internet.
Merci, Viviane Digonnet. Merci Théodore et Théo pour ce moment partagé avec nous. Tout de suite, le morceau YMCK de Bad Bad Not Good sur Radio Campus.